Le 30 novembre 2022, la société OpenAI a dévoilé ChatGPT, la version conversationnelle de sa solution d'IA générative, c'est-à-dire capable de générer du contenu. Chacun y est allé de son petit essai avec plus ou moins de bonheur, et beaucoup se sont tout de suite demandé comment utiliser cet outil dans la santé. Alors nous avons voulu poser la question à Cédric Chabal, directeur associé de Smart Data Health, une start-up spécialisée dans l'analyse de données de santé. Cédric et son équipe ont passé un mois à tester ChatGPT de manière intensive. Ils nous disent qu'il en a retenu et comment ils pensent utiliser l'IA au service de la communication santé. Une petite précision de timing avant de commencer, cet épisode a été enregistré en mars 2023, quelques jours seulement avant la sortie de GPT-4, la version de GPT capable d'analyser des images. Bonne écoute. Bonjour Cédric.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Cédric, on peut se tutoyer.
Oui, volontiers.
On se tutoie, bon, c'est récent, mais bon, autant continuer. Tu peux nous dire en deux mots ce que fait Smart Data Health ?
Alors, Smart Data Health a vocation à cartographier des écosystèmes et à les mettre en relation avec les marques. Ce qu'on entend par écosystème, c'est des influenceurs, des experts, mais aussi des prescripteurs potentiels, des professionnels de santé, des personnes qui travaillent dans les institutions santé, les médias, les centres de soins, etc. Et donc, on va les cartographier finement avec des algorithmes et une intervention humaine en fonction de leur métier, leur géolocalisation et surtout leurs appétences. Et ensuite, on va les mettre en relation avec la marque sous forme de demandes de connexion et de messages.
Donc, c'est de la mise en relation ?
C'est de la mise en relation en one-to-one. Aucune mise en relation robotisée, c'est tout fait à la main d'ailleurs.
D'accord. Donc, cette cartographie, c'est une espèce de, comme son nom l'indique, de carte pour vos clients, pour dire, voilà, telle personne qui pourrait être intéressante dans un écosystème qui est celui dans lequel j'évolue en tant que marque, en tant qu'entreprise. Voilà un acteur, un autre acteur auquel je n'ai pas accès naturellement, mais on m'indique qu'il pourrait m'intéresser parce qu'il parle de ci et ça.
C'est à peu près ça ? C'est exactement ça. Et on va aller jusqu'à analyser la prise de parole de cet écosystème pour pouvoir alimenter la stratégie éditoriale des marques et aussi développer l'engagement. Et par ailleurs, pour monter des boards d'experts, d'influenceurs, et pourquoi pas détecter aussi ce que disent les rising stars, puisqu'en santé, on nous demande beaucoup les rising stars. Donc en fait, ce sont les professionnels de santé de demain qui font de la recherche et qui sont reconnus par leur pair comme ayant un gros potentiel.
Parfait. Alors, on va parler de ChatGPT. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais je pense qu'il y en a peu, ChatGPT, c'est l'outil d'intelligence artificielle générative d'une société qui s'appelle OpenAI, dans laquelle Microsoft est très impliqué, qui est sorti, alors la nouvelle version, donc c'est un système qui existe depuis plusieurs années. La dernière version de ChatGPT est sorti en novembre. Mm-hmm. C'est un outil conversationnel qui est, je crois, au départ dédié à du chat. On va parler de l'utilisation de ChatGPT dans le cadre du marketing et de la communication santé. Mais première question, pourquoi est-ce que Smart Data Health s'intéresse à ChatGPT ?
Alors, pour le coup, nous, on cherche toujours à rester en avance de phase et on s'intéresse à tout ce qui est innovant. On a vraiment testé le dispositif en profondeur, hein, puisque on a regardé les versions antérieures. On a fait plusieurs mois d'essais. Et le but, c'est d'enrichir nos algorithmes avec des dispositifs d'analyse complémentaires et également de pouvoir encore mieux exploiter au maximum nos open data et nos datasets qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
Parle-nous un peu de ce que vous avez fait et surtout pourquoi. Qu'est-ce que vous avez voulu tester et comment vous vous y êtes pris ?
Alors, moi, j'étais un peu resté sur ma faim sur les techniques de sentiment analysis qui existent sur le marché. Donc, pour pouvoir mieux analyser la tonalité des publications sur les réseaux sociaux. Pareillement, il existe peu ou pas de solutions qui permettent de résumer tout ou partie des informations. Et j'ai voulu voir un peu ce que ChatGPT ou GPT-3 avait dans le ventre. Et donc, en fait, on lui a donné à manger, entre guillemets, des dizaines de milliers de tweets et retweets, avec pour objectif final d'obtenir des résumés de très bonne qualité, concis, des résumés en 9 mots de chaque tweet, et ensuite de travailler sur des clusters thématiques.
Donc en gros, vous lui donnez des dizaines de milliers de tweets et vous lui demandez de résumer et en plus de les regrouper par thématiques ou par mots-clés qui sont utilisés.
C'est ça, exactement. On s'est posé ça comme postulat de départ, comment résumer, donner une tonalité et clusterisé par thème et par sous-thème. Et au départ, on lui a dit de résumer, mais sans lui donner de consignes. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle n'était pas homogène. Donc, en lui disant de faire des résumés sur 9 mots, on a essayé sur 12, sur 15, sur 5, etc., on est arrivé à plus d'homogénéité.
Donc, vous la contraignez, en fait.
On la contraint. Et on l'éduque. Si on n'est pas satisfait, on lui dit. Le but, c'est de progresser avec elle. C'est surtout elle qui doit progresser. Nous, on sait exactement où on veut aller. Ça, c'était donc la première étape, c'est-à-dire s'entraîner sur des données, réfléchir au bon prompt, c'est-à-dire à la manière où on donne des consignes à GPT.
Vous avez autant appris qu'elle de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous avez appris à lui parler.
C'est ça, on a appris à lui parler. Elle a son propre langage. Hein. Il y a tout un savoir-faire pour poser les bonnes questions, que ce soit sur la partie ChatGPT conversationnelle ou sur l'API. Il faut utiliser des verbes, il faut être assez directif, très très précis dans toutes les étapes attendues, très très précis dans les rendus.
Et c'est-à-dire
anticiper ce qu'on ne veut pas et lui dire. Et donc, l'étape 2, c'est de faire dialoguer nos scripts informatiques avec les données qui sont sorties de ChatGPT ou de GPT-3. Parce que nous, du coup, on en profite pour corriger des erreurs.
Reclassifier.
Voilà, reclassifier, renettoyer et y adjoindre nos propres bases de données, nos propres datasets pour pouvoir mettre une couche supplémentaire d'analyse et d'interprétation.
Donc, si je reprends dans l'ordre, en fait, il y a une étape où d'abord, vous sélectionnez des données et vous voulez que ce soit celle-ci qui soit utilisée et pas ce qui traîne sur le web. Tiens, voici mes données. Ça. On apprend à se connaître. J'apprends à te poser les bonnes questions dans une manière qui me donne des réponses qui me satisfont. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Vous extrayez les réponses données et là-dessus, vous venez brancher vos propres outils d'analyse.
C'est ça, exactement. Exactement. Et la dernière couche, c'est toujours la même, c'est l'humain, pour pouvoir faire un dernier cleaning et une interprétation, une prise de hauteur avec notre finesse, entre guillemets, d'être vivant.
Pensant.
Pensant avec notre éthique, notre libre arbitre, nos sentiments, nos intuitions, etc.
Bien sûr, nos biais.
Nos biais, mais des biais, je dirais, plutôt positifs. Quoi.
C'est ce qu'on aime à croire, en tout cas. Mais alors, du coup, sans blaguer, chez Smart Data Health, quelle place vous comptez faire à ce genre d'outils au sein de votre effectif et même de votre activité? Quelle place vous comptez lui faire?
Nous, on avait un vrai métier qui consistait à poser des requêtes, c'est-à-dire réfléchir aux mots-clés à utiliser pour interroger des gisements de data. Et là, finalement, on va devoir faire une variante de métier qu'on appelle donc prompt ingénieur, que l'on va ajouter à nos savoir-faire. On avait déjà tout un savoir-faire en data science et en analyse de grands gisements de données. On avait, nous, fait le choix, chose assez rare sur le marché, à ne pas compter que sur le machine et le deep learning, mais plutôt croiser le web avec des datasets, donc des open data où on avait sélectionné à la main des thésaurus. Donc ça, on va bien le garder précieusement, parce que ça, c'est un vrai trésor, puisque pour le coup, la machine ne peut pas se tromper quand on lui donne à manger des jeux de données qui sont ultra, ultra qualifiés. Cependant, GPT et consorts vont nous faire gagner du temps pour certains automatismes et vont nous donner des nouveaux champs d'investigation. Si GPT-4 tient ses promesses sur la vidéo et l'image, c'est encore un nouveau champ d'intervention qui va arriver, quoi.
Oui, je vois. Donc, en fait, vous allez l'utiliser pour sa puissance de calcul sur des données qui sont fiables et sûres, puisque c'est vous qui les qualifiez et que vous les connaissez, sur son analyse des données qui passent quand il s'agit par exemple de conversations sur le web, parce que là on n'est pas à risque, on sait que la nature de la conversation peut porter des faits qui sont corrects ou incorrects, mais c'est pas ce qu'on cherche, on cherche pas une vérité, on cherche à savoir ce qui est dit. Et puis par ailleurs, ces nouvelles capacités d'analyse, notamment d'images et de vidéos.
C'est ça, complètement.
On est très loin du ChatGPT que moi, les gens dans la rue, enfin les gens qui ne sont pas experts, voient et ont pu utiliser.
Oui, complètement. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg qui amuse les foules et qui rend un certain nombre de services, comme ont rendu des services les assistants personnels Siri et consorts il y a quelques années. Hein. Mais la partie, en tout cas sur le plan professionnel, qualitative, la plus intéressante, c'est la partie de l'API.
Donc les API, je rappelle, c'est cet outil qui permet de s'interfacer. Donc même s'interfacer, c'est un mot pas très joli, mais ce qui veut dire pouvoir échanger sur la manière dont les données sont utilisées, extrapolées, et qui permet d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur ou le nourrir ou extraire des données.
Exactement. Mais encore une fois, ça aussi, c'est un métier. Mmh. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler tous les paramètres de ces API. Il y a un travail de co-construction, il y a un travail intellectuel et un travail d'auteur aussi, bien que ce pose de vrais problèmes de droit de la propriété et droit d'auteur.
Mais bon. Oui, justement. Tout à l'heure, on parlait de synthétiser des documents de recherche médicale. Quelles sont les limites de cet exercice-là?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a déjà, je pense, Renovo, une analyse et une synthèse faite avec des corpus médicaux. Donc, là, pour le coup, nous, avec nos datasets et puis d'autres opérateurs comme nous, vont être plus fins que GPT, qui est quand même généraliste. Mais se pose surtout un problème d'ordre de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, du parasitisme commercial. Et du coup, c'est à la fois de l'éthique et du juridique qui rentre en jeu, quoi.
Je sais que c'est ton cœur de métier, mais bon, on parle déjà énormément de la polarisation de la conversation, des fake news, et notamment celle qui surgit à travers les réseaux sociaux, Twitter étant l'un d'entre eux, mais évidemment pas le seul. Si on rajoute une couche à toutes ces informations qui circulent, en particulier sur Twitter, et que cette couche, c'est cette intelligence artificielle générative, qui elle-même est susceptible de biais et d'autres détournements. Est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, de créer une espèce de... C'est même pas une usine à gaz à ce niveau-là. C'est un monstre en termes d'être capable de revenir à la qualité d'une information, d'une source.
En fait, il faut garder à l'esprit que c'est un outil. C'est un outil, un dispositif supplémentaire dans ce qui nous est proposé en 2023. Mais en aucun cas, ça doit être une fin. Donc, il faut absolument mettre de l'intelligence de bout en bout, l'intelligence humaine. Nous, on parle d'une recherche passive avec les GPT et consorts, puisque finalement, on nous apporte, servi sur un plateau, un certain nombre de réponses ou de connaissances. Donc, pour moi, c'est de la recherche passive. Ouais. Et moi, je le mettrais en opposition à l'intelligence humaine active. C'est-à-dire qu'il faut poser les bonnes questions au départ, sélectionner les bonnes sources et faire le tri parmi les réponses de ChatGPT. En fait, il faut s'en servir comme un facilitateur, mais en aucun cas prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Mais c'est vrai que ça reste une menace, puisqu'il n'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui est de l'information sourcée, vérifiée, vraie, scientifique, officielle, que sais-je, et de l'information qui émanerait des sphères complotistes ou de n'importe quel groupuscule.
D'autant qu'on ne sait pas d'où vient cette information. Enfin, on sait qu'elle vient du magma du web, mais on ne sait pas plus loin que ça.
C'est ça, c'est-à-dire que quand on lui demande ses sources, il les cite, mais déjà, il faut lui demander, sinon ce n'est pas spontané, et il va les citer au global. Il ne va pas nous dire « la première partie de la phrase, je me suis inspiré de telle source ». Non, il dit « au global, j'ai telle et telle source ». Alors, je l'ai poussé dans ses retranchements. Souvent, il donne des sources mainstream. Mais après, on peut lui dire « Non, mais moi, je veux plutôt des sources scientifiques. Sur quelles sources tu t'es basé ?» Et après, il va me lister des sources plus ou moins spécialisées. Après, je lui dis « Mais je veux vraiment des sources universitaires. » Donc, il va chercher. Mais il faut faire attention parce qu'il veut vraiment avoir réponse à tout. Mmh. Et on dit qu'il confabule. C'est un nouveau terme utilisé, c'est-à-dire que vraiment, il est droit dans ses bottes, qu'il s'agisse d'une information véridique ou d'une information qu'il a imaginée ou enjolivée. Et ça, c'est assez inquiétant. Donc, qui nous dit qu'il ne confabule pas aussi sur certaines sources? Nous, on l'a testé sur certaines définitions de mots qui n'existaient pas. Il est allé en trouver. Donc, Il était sûr de lui. C'est pour ça, je l'ai dit au début... Moi, je suis plus utilisateur avec nos équipes de GPT au sens technologique et analyse de l'information plutôt que ChatGPT qui va aller chercher sur le web. Parce que là, il y a quand même beaucoup de lacunes et de choses trap, quoi.
Et en plus, ChatGPT est très fort pour nous faire croire que l'information est vraie. Il paraît tellement sûr de son fait que si on n'a pas un peu de recul, on est capable de tout gober.
Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs ce que certains lui reprochent, c'est que il a autant de certitude quand il dit une chose vérifiée que quand il l'invente, parce qu'il a du mal à... Il y a une certaine fierté de cette machine. Maintenant, ils l'ont corrigé un petit peu ces derniers temps, ces dernières semaines, et maintenant, elle n'arrive plus à dire « je ne sais pas ». Mais il fut un temps où il fallait coûte que coûte qu'elle trouve une réponse. Donc, ouais. Moi, je m'étais amusé avec nos équipes à inventer un mot et lui demander une définition. Ben, elle me sortait une définition. Ubuesque, mais elle me sortait une définition.
Oui, donc il arrivera un moment où elle sera convaincue que la Terre est plate et impossible de lui en faire démordre. Et là, il faudra la débrancher.
C'est ça.
Surtout quand elle sera connectée à nos systèmes de défense en parallèle. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir, Cédric. On blague un peu, mais c'est une question très sérieuse. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez contacter Cédric. Le lien vers le site de Smart Data Health se trouve dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de l'Université de la e-Santé. N'hésitez pas à le partager et à écouter les autres épisodes. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.